Nous passons à la partie débat et pendant que la salle s'échauffe, je vais mettre trois questions sur la table. Premier point, François Loss nous a dit qu'il faudrait que la prochaine campagne présidentielle, un candidat dise qu'on va passer de 35 à 40 heures, diminuer les RTT, etc. Je ne suis pas sûr qu'on entende ce genre de discours, de projet, et je ne suis pas sûr qu'il gagne. Mais supposons que finalement, on ne pose pas trop les problèmes avant la campagne présidentielle, mais qu'ils se posent après. Tu as été ministre de l'Industrie. Quelle est l'écoute d'un gouvernement et des collègues envers ce que dit le ministre de l'Industrie et les sonnettes d'alarme qui tirent? Est-ce qu'en fait, c'est vraiment facile de faire pénétrer la préoccupation du ministre de l'Industrie auprès de ses collègues? Le deuxième point, c'est les patrons de PME français vendent et pas en Allemagne. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème fiscal? L'ISF et autres choses font que les patrons vendent ou qu'ils n'ont pas de succession. Ou est-ce que, si en Allemagne on ne vend pas, est-ce que c'est lié à un système, à leur système de fondation et un système fiscal peut-être et au système bancaire? Et troisième point, que sont les champions nationaux devenus? Les champions nationaux, c'était dans chaque secteur un champion qui devait défendre les couleurs de la France. J'ai l'impression qu'ils sont devenus des mammouths du CAC 40. Et qu'à part Sanofi Aventis, ils n'ont même plus leurs chaussures tricolores. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mammouths du CAC 40 qui payent les impôts en France, ni même qui considèrent la France comme un territoire à privilégier.
Franchement, un ministre de l'Industrie est membre d'une équipe. Celui qui commande dans un gouvernement, c'est le Premier ministre, ou voire le Président de la République. Et donc la politique, c'est celle du Président de la République. Et avec l'actuel, c'est encore plus vrai. Et il est un excellent ministre de l'Industrie, l'actuel. Je crois que c'est une grande chance pour tous mes successeurs d'avoir eu ce président de la République comme président, parce qu'il a une vraie volonté dans ce domaine. La difficulté, c'est ensuite de la faire partager. Et Jean-François Dehaec et Denis Ranc m'ont tous les deux vu agir sur des sujets où je n'étais pas le plus fort dans la discussion. Et c'est clairement la volonté du président ou du premier ministre qui est la politique industrielle. Un ministre a des marges de manœuvre, mais quand ça devient chaud, ça se passe à un autre niveau.
Mais tu penses crédible qu'un programme présidentiel propose toutes les pilules amères dont tu as parlé?
Je pense que c'est pas crédible, mais je pense que c'est nécessaire.
Il faut être sérieux dans les discussions. On n'est pas en café du commerce. Sur le temps de travail. Il faut prendre le temps de travail réel et non pas le temps de travail théorique, et en particulier dans les entreprises. Il n'y a pas une entreprise réelle dans laquelle le temps de travail est à 35 heures. Le temps de travail est infiniment supérieur à 35 heures. Que dans les secteurs fortement syndicalisés où les négociations ont été menées, oui, mais ce n'est pas vrai, c'est un endroit très limité. Par ailleurs, en Allemagne, le temps de travail est plus faible que le temps de travail théorique parce que vous avez plein de gens qui sont à temps partiel. Donc quand on fait la comparaison des temps de travail en Allemagne et en France, on travaille plus en France qu'en Allemagne. Sauf qu'il faut regarder aussi comment c'est payé. Et comment c'est payé en heures supplémentaires, avec impôts ou sans impôts, et ainsi de suite. Il faut rappeler quand même que les salaires en France sont plus faibles qu'en Allemagne. Ce n'est pas pour rien que les Français vont travailler en Allemagne, et ce n'est pas pour rien aussi que l'industrie mécanique française est massivement sous-traitante de l'industrie allemande. Donc voilà, il me semble que dans les discussions, il faut aussi repartir des faits tels qu'ils sont. Et à partir de là, les faits sont très différents, souvent, des représentations.
C'est ça l'intérêt d'avoir finalement quand même tout le monde autour de la table, et pas simplement soit les patrons, soit les pouvoirs publics, mais les partenaires sociaux aussi, et pas simplement les partenaires sociaux. Je crois que c'est vraiment ça l'intérêt, quoi. Moi, ça me hérisse quand je vois des réunions maintenant dans lesquelles on retrouve toujours la bande de patrons et quelques administrateurs. Il y a un vrai sujet quand même.
Je passe la parole à Grégoire Pastelvide.
C'était une réponse à tes questions, enfin du moins à deux des trois. Je crois que sur le sujet poids de l'industrie dans le gouvernement, il y a d'une part une chose qui a été faite et qui était utile, qui est dans le sens de ce qu'a dit Denis Ranc, c'est-à-dire faire le poids complet entre industrie et services à l'industrie, auquel cas on ne parle pas seulement de 3,4 ou 3,7 millions, selon qu'on compte les intérimaires ou pas, en diminution du fait des gains de productivité, mais d'un ensemble dont la masse en période prospère est stable ou en croissance, et en période de crise est en légère décroissance, mais qui représente un poids politique qui est plus important. Ça, c'est le premier point. Malgré tout, la politique dépend du nombre de gens qui sont concernés. concernés, si on explique que, au fond, toute la nation est concernée à deux titres, directement par cet ensemble, et d'autre part par le fait que les gains de productivité dans ce domaine financent la totalité de la production sociale et notre mode de vie, à ce moment-là, on a un vrai poids. Ça, c'est le premier point. Vendre en Allemagne, je ne vais pas m'étendre beaucoup. Sur la question de la désolidarisation du CAC 40 avec le territoire, c'est un phénomène qui est en effet vieux et qui est plutôt tendance à s'amplifier. Il y a quand même des contrepoids en ce qui concerne la politique industrielle qui ont été mis en place et qui ont quelques succès. La suppression de la taxe professionnelle, le crédit impôt recherche pour éviter une délocalisation de centres. La R&D, il faut quand même être conscient qu'au sein de la DIRD française, il y a 55% qui dépendent du CAC 40. Donc s'ils s'en allaient, c'était embêtant. Là, au contraire, ils se relocalisent. Il y a des nouveaux qui viennent. Donc on est le point le plus attractif du monde actuellement en termes de CIR. Et puis la politique des pôles de compétitivité a eu aussi un rôle relativement favorable. Donc la remontée des flux d'IED actuels est tout de même une traduction de cet ensemble de mesures qui sont pour une part récentes. Alors il y a aussi le phénomène décrit par François Loss, et là je suis malheureusement d'accord avec lui. Malgré tout, il y a des éléments de relocalisation. Rien qu'un point tout de même sur les propos de Thierry Barn, que je ne vais pas redétailler, mais sur lesquels je ne suis pas entièrement d'accord. Mon sentiment, c'est que dans sa présentation, il y a beaucoup d'éléments justes, mais ils sont justes à la façon dont un statisticien trouvant que la moyenne est à 49% va dire que les Français sont mauvais parce qu'on est en dessous de la moyenne. C'est vrai, mais en même temps, si on se sert des 49% positifs sur lesquels on peut avoir des effets de levier, à ce moment-là, rien n'est perdu. Alors que si on dit à tout le monde, de toute façon, vous êtes mauvais, on dévalorise les 49% qui travaillent à tort et on ne donne pas l'impression aux 51% qui pourraient s'améliorer qu'ils pourraient le faire. Donc c'est ça qu'il faut faire sur chacun des points qu'il a évoqués, qui tous pris séparément ont du sens, mais qui, pris avec cet aspect de moyenne, ne créent pas la dynamique nécessaire.
François Perrier.
Je crois que par rapport au défi de l'industrie, il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, et je crois est spécifique à la France, c'est que la représentation nationale comprend très peu d'industriels. Nous, industriels, ne faisons pas de politique, et donc nous n'avons aucun rôle au Parlement. Alors, François Loss est là, il a fait de l'industrie. Je ne sais pas combien il y a d'industriels au Parlement aujourd'hui. Je crois qu'on peut les compter, ils doivent être moins d'une vingtaine, je pense, de vrais industriels. Même pas. Donc je crois que c'est un premier point, c'est que s'il faut changer l'éducation nationale, s'il faut changer un certain nombre de choses, je crois que tout le monde est d'accord. Mais je crois que la première chose, il faut prendre le pouvoir aussi à la représentation nationale. Comment est-ce que le Premier ministre ou le Président peut être au courant de nos problèmes? C'est d'abord à l'Assemblée, plutôt que par le lobby de certains d'entre nous auprès de ces gens-là, qui était très utile, mais qui n'est pas suffisant. La deuxième chose, on parle beaucoup de l'avenir de l'industrie, le défi de l'industrie. Je crois qu'aux États-Unis, le problème se pose aussi d'une autre façon, parce qu'on voit l'innovation, on la connaît, mais le problème de l'industrie de base est aussi posé aux États-Unis. Et quand on lit les réflexions sur les États-Unis, on se rend compte en fait que les ingénieurs et les commerçants sont attirés par la finance depuis 20 ans et que ça continue après la crise. Et donc le problème, c'est peut-être un problème de rémunération ou d'attractivité des secteurs qui ne soient pas les secteurs financiers. Dernier point, je crois que dans le temps, nos préfets faisaient le rôle d'arbitre entre les différentes administrations et permettaient le développement industriel. Aujourd'hui, je suis en train de travailler dans un coin de France pour un préfet. Il est soumis aux pressions des ministères et il n'arrive plus à arbitrer. Et comme les instructions sont effectivement désordonnées entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, etc., il ne choisit plus et les dossiers n'avancent pas. Je pense qu'il y a là peut-être une réflexion aussi, comment redonner plus de pouvoir au local contre Paris. Merci.
Tu sais qu'il faut que tout le monde prenne des risques, même les préfets.
Ouais.
Sur le désengagement du CAC 40 vis-à-vis de la France, je crois qu'il y a des chiffres, mais il y a un point qui me paraît très clair, c'est qu'il ne touche plus la R&D. Dans la crise extraordinaire qu'on a vécue, où les productions industrielles ont baissé entre 15, 20, 30% selon les secteurs, tout a été coupé, notamment les CAPEX. L'investissement a été coupé de 40, de 50%. Mais n'a pas été coupé la R&D en France. Et les chiffres le montreront, commencent à le montrer et on le verra. C'est très caractéristique quand même.
Claude Rivlin.
Je suis professeur à l'École des Mines et dans cette fonction, j'encadre cette année un travail sur l'Allemagne. Donc je vais citer mes élèves. L'un des trois est allemand. Donc nous avons de solides sources. À la lumière de ce qu'ils m'apprennent, je suis gêné par le fait qu'on fait des comparaisons entre la France et l'Allemagne comme s'il s'agissait de deux entités comparables. Mais quand on regarde dans les détails, c'est tellement différent qu'il faut regarder de plus près de quoi il s'agit, en particulier en matière d'industrie. Une chose qui me paraît très claire en Allemagne, c'est que les problèmes industriels sont locaux. Lorsqu'une entreprise moyenne a des problèmes, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème du Land, c'est le problème de la ville voisine, c'est le problème des syndicats, c'est le problème des gens dans la rue, parce que l'industrie, c'est à eux. Pour une deuxième raison aussi, c'est qu'ils aiment la matière. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, Perrier me corrigera, mais en Allemagne, tous les patrons d'entreprises chimiques sont des chimistes. En France, non. C'est des très brillants ingénieurs, mais ils n'ont pas commencé en étant chimistes. Alors, donc, ils sont les meilleurs, donc on n'est pas bon, donc on est fichu. Pas du tout. Ils ont de terribles problèmes, les Allemands. D'abord parce qu'ils ont un pouvoir central qui n'est pas un pouvoir. Dans l'histoire de l'intervention en Libye, on l'a vu clairement. Ils sont actuellement extrêmement mal vus par la mollesse ou le flou de leurs intentions. Mais il y a aussi autre chose que personne n'a dit. Leurs femmes ne font plus d'enfants. Et une politique natalie, surtout dans un pays dans lequel les décisions sont extrêmement décentralisées, c'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Alors on va compenser par de l'immigration. L'horreur. Leurs immigrés sont beaucoup plus malheureux que les nôtres. On n'arrive pas à les intégrer en Allemagne. Donc je dirais, vous connaissez le fameux adage de Mao, asseyez-vous à la porte de votre ennemi, vous finirez par voir passer son cercueil. Je ne pense que ce n'est pas la bonne attitude dans notre dialogue avec l'Allemagne. Mais il faut se rendre compte que c'est un pays extrêmement différent et qui lui aussi a de terribles problèmes.
Mais même les Italiens ne font pas d'enfants non plus. Et quand on compare l'Italie, on oublie toujours l'Italie, mais dans toutes ces difficultés, l'Italie a perdu beaucoup moins de parts de marché, l'Italie a gardé beaucoup plus d'industrie, l'Italie a fait plein de choses, mais on ne veut jamais regarder les Italiens qui nous ressemblent quand même un tout petit peu plus que les Allemands et qui effectivement se débrouillent beaucoup mieux que nous.
Arriverons-t-on à la conclusion que l'avantage comparatif industriel français, ce sont les femmes françaises qui font des enfants? C'est assez intéressant du point de vue de l'objet même de nos discussions.
Mais ça a un sens?
Oui, mais je dis bien que ça a un sens, ce qui veut dire que ça fait partie des politiques industrielles.
Les Chinois viennent de relancer une politique de natalité.
Je ne dis pas simplement, je dis quelles sont les limites de la réflexion.
Des consommateurs.
Mais ce n'est pas uniquement des consommateurs, c'est aussi des producteurs. Où sont les limites de la réflexion concernant la politique industrielle? Et on connaît quand même, il y a des comparaisons France-Allemagne faites par des bons labos il y a 30 ans qui montraient que ce n'était pas une logique simplement de statistiques. C'est pour ça que je suis parti de la construction sociétale française. On a un vrai problème de modernisation de la construction sociétale française, pas nos femmes.
À 5 reprises dans l'espace de 10 ans, la politique industrielle a eu à s'exprimer sur ce sujet et a effectivement appuyé ce qui limiterait les évolutions de type italien, polonais ou allemand, avec des taux de fécondité à 1,3%. Ça a été vrai pour le sommet de Hampton Court avec les déclarations conjointes entre Chirac, Zapatero, Persson et, quel était le dernier, je ne sais plus, sur l'Europe des jeunes. Ça a été vrai dans le rapport Attali qui proposait une mesure qui était malthusienne. Ça a été vrai dans plusieurs lois de finances.
Oui. J'ai lu le résumé de mémoire dont parlait Rivlin. En fait, le problème démographique, c'est un problème qui est dans le futur. Enfin, il se pose aujourd'hui, mais les préoccupations sont dans le futur sont importantes pour les Allemands, alors que nous, dans le présent, l'industrie est un vrai souci. Alors, François Loos, vous voulez intervenir?
Oui, enfin, c'était plutôt une accroche par rapport à ce qui se disait. Je pense que le fond de la politique industrielle, c'est un problème culturel. C'est un problème de choix de société et de ce que ressentent les gens. Et nous sommes totalement différents des Allemands. Et effectivement, si on a des comparaisons à faire, je préfère la comparaison avec l'Italie. La comparaison avec l'Italie, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur le 1 à 10 pour la chemise achetée en Chine, les Italiens ne souffrent pas, n'ont pas perdu leur industrie textile habillement, leur mode. Et dans la chaussure, c'est particulièrement intéressant parce qu'ils arrivent à développer, ils ont 7 fois plus d'emplois dans la chaussure que nous en France. Donc nous n'avons pas perdu les emplois à cause de la Chine ou à cause de l'Inde, mais à cause de l'Italie. Et pourquoi en Italie ils savent faire? Parce qu'en Italie, ils ont leurs magasins et ils ont la créativité. Eh ben, le créatif plus le magasin, plus, eh ben, tout ça, ça... Alors, on en a aussi des comme ça en France, mais on n'en a pas beaucoup, et ça, c'est culturel. Ce qui fait d'ailleurs une force des États-Unis. Savez-vous quel est le premier produit d'exportation des États-Unis? Les films télé. Les films télé et le cinéma américain. Et pourquoi la bataille mondiale de l'exception culturelle française a fait rage pendant un certain temps? Parce que les Américains voulaient imposer à tous les pays du monde l'interdiction de subventionner le cinéma. Et pourquoi les États-Unis exportent ça? Parce qu'ils sont encore les seuls dont le cinéma est regardé par le monde entier. Et par contre, si vous faites du cinéma dans un autre pays et que vous voulez le faire projeter aux États-Unis, vous pouvez toujours courir. Et donc, ils exportent leur modèle culturel à travers le... Bon, c'est ça la politique qu'il faut arriver à faire. C'est une politique de puissance et elle se base forcément sur la société telle qu'elle est. Et la société française dans ce domaine, elle n'est peut-être pas assez gagneuse, elle n'est peut-être pas assez ambitieuse comme modèle culturel.
Jean Potage.
Je voudrais revenir sur l'innovation qui a été présentée un peu comme une sortie par le haut. Mais de mon point de vue, il y a encore deux grosses inquiétudes par rapport à ça. La première, c'est que progressivement, on a, si j'utilise le langage des acheteurs, externalisé, offshorisé le manufacturing et maintenant la R&D. Donc mon pronostic, c'est que l'innovation va suivre le même chemin. Et donc on fera une réunion dans un an pour peut-être pour se lamenter sur l'externalisation et l'offshorisation de la R&D. Et Denis a d'ailleurs un peu souligné que les talents n'étaient pas que chez nous en la matière. Voilà. Donc, comment vous voyez l'avenir de ce point de vue-là? Et puis, ma deuxième inquiétude, c'est qu'en matière d'innovation, cette fois-ci, deux ruptures. Les partenaires des grands groupes et des industriels, on le sait bien, c'est les PME et c'est les start-up. Et donc, une structure extrêmement fragile. Je partage le pessimisme de Jean-François Dehaeghe à ce sujet-là. Donc, l'innovation, c'est vraiment pas gagné, même si c'est la bouée de secours.
Je n'en ai pas de chiffres qui démontrent de façon globale que les flux d'offshorisation de la R&D soit supérieur au flux de rapatriement. Enfin, je suis sûr qu'il y a des exemples, effectivement, où tel grand groupe va faire face à R&D à Singapour, etc. Mais globalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai flux. Et moi, je trouve que le CIR donne, le Crédit Impôt Recherche, a donné des exemples inverses. J'ai vu des gens, bon, prenant Technicolor, on a fermé un machin en Inde pour le ramener à Rennes. Bon, alors c'est peut-être anecdotique, mais enfin, moi, j'aimerais bien mesurer un flux là-dessus. Je ne suis pas sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, en France, quand on parle d'innovation, on parle R&D et labos de recherche. Or, une bonne partie de l'innovation se fait sur le tas, avec des gens qui connaissent les procédés, les process. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait intéressant de revenir sur la dérive des arts et métiers. Quand vous allez voir la maison des Gazards et que vous voyez la galerie des portraits et que vous voyez qui a inventé quoi, vous apercevez que les Gazards étaient des grands innovateurs. Et quand vous reprojetez ça sur l'histoire industrielle française, vous avercez qu'il y a une relation avec le moment où l'industrie française était particulièrement compétitive par son innovation. Et donc, de nouveau, il ne faut pas couper les choses en morceaux, parce que ce qui est intéressant, c'est de l'innovation qui rapporte, et pas uniquement de la recherche qui coûte. Et il me semble que dans le bouquin, il y a une phrase tout à fait intéressante qui dit que la différence entre la recherche et l'innovation, c'est que la recherche coûte et rapporte peu, alors que l'innovation coûte peu et rapporte beaucoup. C'est un des grands titres, me semble-t-il, de cet intéressant ouvrage. Or, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la valeur. Où produisez-vous de la valeur? Qui capte la valeur? Sachant que la valeur, elle va jusqu'au service rendu au client. Et donc, l'art d'une bonne entreprise gérée, c'est de faire des choses qui ne coûtent pas cher, qui rapportent beaucoup, parce que ça intéresse les clients qui sont prêts à le payer. Et donc, si vous faites une analyse de la valeur tout le long du process, depuis la matière première jusqu'au produit rendu client, c'est tout à fait intéressant. Et c'est là que ça montre la faiblesse de l'appareil français.
Et en plus, il faut quand même compter que la recherche paiera dans 5 ans ou dans 10 ans, et entre-temps, il ne faut pas crever. Donc, c'est l'innovation qui va nous empêcher de crever demain pour être sûr de profiter de la recherche d'après-demain. Ce temps, il y a quand même un autre problème. J'ai passé toute l'après-midi justement avec le groupe stratégique sur la recherche-innovation. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut se dire maintenant. Hein. On va arrêter de penser qu'on est tellement plus intelligent parce qu'on a des grandes écoles qu'on va écraser tout le monde. Hein. Les gars, on leur a fait un bras d'honneur, enfin plus avant ceux qui nous ont fait un bras d'honneur, Siemens et Alstom s'engueulent sur le TGV, les Chinois disent on s'y met, 4 ans après, ils battent leur corps du monde de vitesse avec leurs machines qu'ils ont fait chez eux. Alors on va dire, je ne sais pas s'ils ont copié nos trucs, bon. Si on regarde ce qu'ils sont en train de faire sur le GPS, bon, nous on fait Galiléo, on mettra à peu près 12 ans, 13 ans si les cochons ne le mangent pas, et si on peut toujours le financer pour sortir Galiléo, les Chinois, ils vont sortir en 5 ans, hein, ils ont déjà, au bout de 4 ans, lancé plus de satellites que nous n'en avons lancé à 17 en Europe, et depuis le double de temps. Troisième exemple, moi, la dernière usine que j'ai vue à côté de Pékin, une usine chinoise de bagnole, ça faisait 1 km de long. Et il y avait un Chinois en blouse blanche tous les 100 mètres à peu près. C'est-à-dire que le niveau de robotisation de la maison. Chine est en train de prendre, je parle de la robotisation de production, est en train de prendre une avance colossale par rapport à nous. Donc, on a des vrais soucis à se faire. Et c'est vrai que, par exemple, la robotique de production, c'est un sujet sur lequel on n'a pas suffisamment avancé dans ce pays. Donc, on ne se sauvera pas longtemps par l'innovation.
Donc, tout va bien. Et William Varrocco va nous donner des raisons d'être optimiste.
Je pose plutôt une question à la table. Si j'ai bien compris, il y a un consensus pour dire « vive l'entreprise familiale allemande ».
Alors, l'amphimiale française aussi.
Oui, mais les Allemands sont meilleurs que nous, c'est grâce aux entreprises familiales. Alors, si j'ai bien compris, Alain Diribarne a porté un élément d'analyse, mais je ne suis pas absolument sûr de l'avoir complètement compris, et je n'ai entendu aucun des quatre autres gloser sur cet intéressant sujet. Donc, c'est la question voilà. que je vous pose.
Donc, je donne la parole à Alain Diribarne d'abord, qui pourra préciser ce qu'il voulait dire.
Vous avez un grand chantre en France qui est Yvon Gattaz, et de l'entreprise familiale comme support de la compétitivité pour des raisons diverses, c'est que donc elle est patrimoniale, la rémunération du capital n'est pas soumise aux aléas que représentent les exigences de rémunération du capital quand vous êtes soumis à la bourse, et vous avez en principe, quand elle est bien gérée, une capacité d'anticipation sur le moyen long terme qui est plus importante qu'ailleurs. Donc ça, c'est ce qui se trouve effectivement quand vous refaites des statistiques reconstruites à partir de la propriété du capital, ou que vous trouvez que, effectivement, sur du moyen long terme, les entreprises de type patrimonial ont finalement des résultats supérieurs aux autres. Donc là encore, on a les analyses. Alors, je ne sais plus qui fait un colloque sur les entreprises centenaires en France. Ce n'est pas tricentenaire. Par contre, si vous voulez avoir une explication sur ce qui se passe sur les entreprises familiales françaises qui sont vendues au moment de changement de génération, il faut regarder comment est construite la fiscalité française. La fiscalité française sur le patrimoine autre que de production est une fiscalité qui permet d'avoir absolument pas de droit de succession. Donc il est tout à fait intéressant pour une famille de vendre un bien industriel qui en plus n'est pas très intéressant, le transformer en un bien monétaire et faire un passage de génération à une autre avec un coût fiscal nul. C'est comme ça. Mais ça, on le sait.
Et sous tous les régimes.
On le sait. La question, c'est pourquoi, alors que, comme dirait le général de Gaulle, on fait des bonds de cabri en disant « faut restaurer les entreprises moyennes, grosses, françaises pour qu'on soit compétitif », ce n'est pas fait. Et là, je renvoie aux politiques.
Je viens de le dénoncer. Enfin, c'était mon introduction. C'était de vous parler de l'ISF.
Il y a en Allemagne un statut de fondation, la Stiftung, que beaucoup d'entreprises familiales ETI utilisent. Bon, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il permet, un, une succession sans taxes. Deux, il permet à la famille de conserver le pouvoir tout en ouvrant progressivement à des managers extérieurs. Et je constate que les entreprises que j'ai bien connues dans mon métier précédent l'ont adopté de façon assez systématique.
Ça existe en France aussi.
Mais en France, je n'entends pas parler de la même,
ben oui,
du même succès.
Justement, ça existe en France. Demandez à Pierre Fabre pourquoi il a mis son laboratoire sous fondation. Juridique. Et la question est pourquoi l'outil juridique n'est pas utilisé alors qu'il est performant par rapport à un certain nombre de résolutions de problèmes.
Puis il y a les banques quand même, hein, parce que les banques de land allemand font de l'industrie, du prêt à l'industrie, et font pas des dérivés. Il faut quand même être clair. C'est un autre sujet. Avoir des grandes banques championnes mondiales, c'est bien, mais elles font pas tout à fait le même métier qu'une banque de village.
Finalement, l'Allemagne est plus girondine que la France.
Elle est totalement girondine.
Michel Rouget.
Oui, comme je ne suis pas industriel, je pose une question sur l'origine sociétale du malaise que relève M. Diribarne. Il y a un siècle, au moment de la montée des risques de la guerre de 14, en Europe, on disait l'Allemand, c'est un factionnaire, l'Anglais, c'est un actionnaire, et le Français, c'est un fonctionnaire. Ça n'a pas énormément changé. Je considère, un petit peu à contrario de ce que j'ai entendu, que c'est quasiment un miracle qu'en partant de cette situation séculaire, on est en France une industrie qui est aussi créatrice qu'innovatrice, parce que je fais toujours une différence entre ce qui est innovation et création. Donc, Monsieur Diribarn, vous aviez connaissance de cette appréciation séculaire?
C'est pas pour rien que j'ai re-référé à l'époque de la grande industrialisation française, qui est l'époque des Saint-Simoniens. Parce que les Saint-Simoniens sont tout à fait intéressants. Ils sont d'une part complètement ouverts à l'international. Je rappelle, c'est eux qui ont fait créer par Napoléon III le premier traité de libre-échange avec l'Angleterre. Et par ailleurs, ils étaient totalement socialistes au sens solidarité. Et donc, ils ont créé, quelque part, la référence industrielle française, qui était une capacité à être présent à l'international à partir d'une solidarité nationale. C'est ce qu'on appelait le paternalisme. Cela, on l'a détruit. Et je vous renvoie à un bouquin qui, à une époque, a eu une certaine célébrité. C'est le bouquin de Michel Albert, qui est « Les Français se sont mis à loucher d'un côté sur le modèle rhénan et de l'autre côté sur le modèle libéral à l'anglo-saxonne. » Et ils ont louché. Ils ont été incapables, comme l'âme de Buridan, de se retrouver quelque part. Ils ont été incapables de construire un modèle à la fois philosophico-politique et de fonctionnement, c'est-à-dire d'action, leur permettant de se moderniser au fur et à mesure. Ce n'est pas pour rien qu'on réfère aux Trente Glorieuses. Sur les Trente Glorieuses, l'ensemble français était cohérent du point de vue de l'organisation productive, de la construction sociétale et de la situation concurrente sur les marchés. Donc ça a marché. Le problème, c'est qu'on n'a pas reconstruit les nouvelles cohérences en relation avec les évolutions. Et en fait, on court après ça depuis 40 ans.